Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer. Le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au guide de l'auto. Germain, on commence par parler de la voiture que je conduis encore aujourd'hui. Et là, je suis très fébrile parce que j'ai pu mettre la main sur... D'abord, bonjour.
Bonjour Antoine. Hein?
Alors, j'ai pu mettre la main sur une Hyundai Elantra 2008 oui. Qui affiche, au moment où je te parle, 999 907 km au compteur.
Tranquillement, on s'approche.
Tranquillement, on s'approche de l'objectif du million. Et l'histoire de cette voiture-là est fascinante. Alors, je vous invite à aller voir sur le site du Guide de l'auto. Dans les prochains jours, on aura une vidéo qui va illustrer comment on franchit le cap du million de kilomètres et qui explique un peu l'histoire de cette voiture-là qui a appartenu à un représentant, en fait, à quelqu'un qui faisait du transport, médical sur la route et qui a...
Avec visiblement un vaste territoire à couvrir.
La voiture a été achetée usagée de quelques années et roulait en moyenne 117 000 km par
année. C'est impressionnant.
Ouais. Avec la même voiture, une voiture qui a son moteur, sa transmission, son échappement, son climatiseur d'origine, ça n'a jamais été réparé. Bon, quelques cicatrices à gauche, à droite.
Mais dans l'ensemble, le véhicule présente bien. J'ai eu la chance de le conduire aussi parce qu'on a eu, le véhicule avec un petit peu moins de 999 500 km. Donc, si on voulait se rendre au million, fallait tourner un peu. Et c'est étonnant de voir à quel point elle est quand même en bon état.
Oui.
Et mon impression de cette voiture-là, c'est qu'elle va aussi bien qu'une voiture qui aurait 150 000 km. Là,
de ville.
De ville.
Parce que oui, on sent quand même que les pièces de suspension, l'embrayage,
c'est
fatigué.
Elle n'est pas neuve, mais c'est quand même impressionnant de voir une Elantra, justement, de 12 ans qui a parcouru autant de kilomètres, parce que on voit souvent des histoires circuler de vieilles Volvo 240, par exemple, qui vont avoir fait l'équivalent là, du tour de la planète, des trucs comme ça. Mais là, de voir une Elantra qui a pas toujours eu une excellente réputation, on peut dire ça comme ça.
Non, c'est pas une voiture qui a été chouchoutée, c'est une voiture qui a été entretenue adéquatement sur le plan mécanique.
Parce que c'était l'outil de travail de son propriétaire, donc il pouvait pas se permettre non plus de
qui a été remplacé par un Kona 2020, soit dit en passant.
J'ai hâte de voir s'il va être capable de faire autant de kilométrage avec ce Kona-là.
Exactement. Donc, j'ai présenté cette voiture-là, salut, bonjour, mardi dernier. Vous pouvez aller voir la capsule, d'ailleurs, sur le site du Guide de l'auto aussi. Autre actualité, Germain, Nissan qui a présenté sa Z.
Ouais.
Le concept de la Z, mais qui est très, très, très fidèle à la voiture de production qu'on va voir apparaître d'ici peu, j'imagine.
Très fidèle, oui, à la voiture de production, mais très fidèle à son héritage et à son passé parce qu'elle reprend des éléments esthétiques de quasiment, finalement, chacune des générations de la Z. Donc, autant de l'ancienne 240 que de la 370Z avec laquelle elle partage sa plateforme, finalement.
On reprend. Moi, j'avais eu la chance de voir cette voiture-là l'année passée chez Nissan au Japon où on nous avait montré la voiture en confisquant nos téléphones. Parce que j'ai pu voir les nouveaux Murano, Pathfinder, Frontier, la gamme complète.
C'est là qu'on voit que le délai entre la construction d'un véhicule et son arrivée chez le concessionnaire, il y a le temps de se passer du temps.
Oui, absolument. Puis je peux vous dire que notamment le Pathfinder, ça va être un produit qui va être pas mal plus sérieux. Là. Mais la Z, moi, j'avais pu la voir là-bas. Ouais. La voiture qu'on a présentée cette semaine, elle est 100% fidèle à ce que j'avais vu là-bas, à l'exception que lorsqu'on nous avait montré la mule sur place, j'avais pas pu voir l'intérieur, les vitres était peinte en noir, donc il n'y avait pas façon de voir l'habitacle, qui est très réussi.
Et là, on a vu les photos, et franchement, ça fait du bien, parce que la 370Z, oui, à la conduite, c'était encore très, très bien, mais l'habitacle, ça, c'était complètement dépassé.
Puis la technologie
et là,
aussi.
Tout d'un coup, on arrive en 2020-2021 avec celle-là. Donc ça, c'est intéressant.
Mais
sur le plan mécanique, on n'a pas eu une tonne de détails. On nous a dit V6 biturbo, dont on se doute très, très, très fortement de la provenance. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir une boîte manuelle à 6 rapports. Et ça, pour les puristes, pour les amateurs de conduite, c'est une excellente nouvelle.
Oui, puis là-bas, moi, on m'avait mentionné... avant de parler de la mécanique, année qu'on avait parlé du châssis. Parce qu'évidemment, on sait que Toyota, par exemple, s'est associé à BMW pour développer une nouvelle Supra. Et ça coûte trop cher de développer une plateforme pour ce genre de voiture-là.
Oui, parce que c'est un volume de diffusion. C'est ça qui est assez mince. Là.
Aujourd'hui, on utilise une plateforme qu'on va partager. Pense à Volkswagen. Ouais. De la Golf à l'Atlas, on utilise la plateforme même plateforme.
C'est la plateforme MQB pour toute la famille.
Alors, on ne peut pas développer une nouvelle plateforme de voiture à propulsion chez Nissan qui va servir à une ou deux voitures seulement. Donc, on a conservé l'ancienne plateforme de la Z, qu'on a modernisée assurément. Et du côté mécanique, sans surprise, il faut s'attendre au moteur biturbo 3 litres qu'on retrouve dans la Q50 ou Q60 Red Sport.
Donc, moteur, 400 chevaux.
Donc, il fait 400 chevaux. Et ça expliquerait pourquoi le nom de la voiture serait 400Z.
Ouais.
Parce que jusqu'ici, on utilisait la nomenclature. Donc, le 370 signifiait 3,7 litres. On se référait à la cylindrée du moteur pour nommer la voiture. Mais
là, dans ce cas-ci, ça serait la 300Z. Donc,
300ZT. Oui.
C'est un peu comme si on reculait. Donc, il y a de fortes chances qu'on y aille avec la quantité de chevaux pour la baptiser, ce qui serait tout à fait correct.
Mais si tu veux mon avis, on pourrait tout simplement l'appeler la Z. Et ça serait correct aussi.
Ça serait très correct.
Sauf
aussi.
Que BMW utilise la lettre Z pour ses Z4, pour ses... pour plusieurs produits.
Mais en même temps, il y a juste 26 lettres. Hein? Donc,
non, c'est ça. On est limité. On peut mettre des trémas, des accents. On peut jouer avec ça, mais enfin. Bon, Hyundai, on parlait d'Hyundai un peu plus tôt. Ouais. Là, on a dévoilé le Tucson, qui est aussi...
Nouvelle génération.
Aussi excentrique que la berline Elantra. On s'en va dans du design extrême qui ne fera certainement pas l'unanimité.
C'est très, très, très violent comme design. Là, allez voir les photos sur le site du Guide de l'Auto. Autant, comme tu dis, l'Elantra avait frappé l'imaginaire, on refrappe à nouveau l'imaginaire avec le Tucson. Pourtant, c'est un VUS compact. Là. Normalement, ça devrait être assez conventionnel. Mais non, là, on repousse.
On a l'impression que Freddy est allé jouer avec ses couteaux dans les lignes de l'auto, là, à donner des grands coups de couteau sans arrêt là-dedans.
Oui. On salue les carrossiers qui vont devoir débosseler ça. Ça va être fantastique.
Les gars de débosselage en peinture.
Ils vont avoir bien du plaisir. Donc, mais tout ça pour dire que la bonne nouvelle, c'est que la grande nouvelle, en fait, c'est qu'on arrive avec une motorisation hybride. Donc, 1.6 turbo jumelé à un moteur électrique. Donc, c'est pas mal la grande nouvelle pour
Tucson. Il faut le faire de toute façon.
Parce
que les nouveaux joueurs, je veux dire, on sait que Toyota connaît du bon succès.
Exactement.
Ford va connaître du succès avec ça. La prochaine génération du CR-V, il y aura un hybride au Canada. C'est écrit dans le ciel.
Puis sinon, pour la version de base, c'est le 4 cylindres 2.5 litres. Donc, mais franchement, la grande nouveauté, c'est oui, son design qui frappe l'imaginaire et son moteur hybride.
Bon, on sait que Tesla connaît beaucoup de succès au Québec. Ouais. Et le concessionnaire qui est basé à Montréal, près de Laurent Julep, est peut-être pas accessible à tout le monde. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus convivial comme endroit.
Mm-hmm.
Alors, on a racheté l'ancien Auto PB de Laval qui appartenait désormais à Albi, géant, qui avait été acheté pour vendre des véhicules d'occasion. La formule
Auto PB qui était quand même un nom très, très, très connu là, à Montréal
absolument.
Et sur la rive Nord. Et je pense qu'on...
Ça avait été acheté par Albi, mais Albi avait placé son centre de véhicules d'occasion sur place et ça n'a pas connu le succès qu'on voulait, si bien qu'on a fermé l'endroit et c'était vide depuis plusieurs mois, voire presque un an.
Et là, c'est Tesla qui est débarqué et on m'a dit que c'était quasiment déjà rempli de véhicules Tesla sur place. Donc,
on va te dire ça dans quelques heures parce que je vais repasser devant après, mais j'ai pas
remarqué. C'est ça, on n'a pas perdu de temps. Donc, ça va être une nouvelle installation qui va desservir les gens qui avait un peu de misère à aller dans le coin de Laurent Julep.
Oui, puis...
Donc, ça en fait un troisième point de service pour Tesla,
Québec,
parce qu'il y en a un à Québec.
C'est tout ce qui est plus logique aussi, parce qu'il y a une grosse clientèle qui vit en périphérie de Montréal qui se procure des véhicules électriques avec raison. Alors, c'est une bonne idée, mais c'est un endroit qui est quand même assez grand.
C'est très, très grand.
Pour accueillir ça,
une grande salle de monte, une baie de service aussi qui sont là. Et on se rappelle que c'est un retour pour Tesla à Laval, parce qu'avant d'être sur la rue Ferrier...
C'est vrai, t'as raison,
Tesla avait un tout petit emplacement sur le boulevard des Laurentides, qui était aussi un ancien détaillant de véhicules d'occasion.
Oui, c'était plus petit qu'un couche-tard.
C'était minuscule dans un quartier qui est peut-être pas le quartier le plus bourgeois de la province. Donc, pour vendre des vé- véhicules dispendieux comme des Tesla, c'était une stratégie particulière, mais on est resté là, quoi, un an tout au plus. Puis après ça, quand le concessionnaire Chrysler première, là, qui lui était sur Ferrier, a fermé, eh bien, on s'est installé là-bas.
Parlant de bourgeoisie, on va parler de la vente de Bugatti.
Ben, c'est pas conclu encore, mais ça nous a un peu tous pris par surprise cette semaine. Donc, le constructeur Rimac, c'est des rumeurs très sérieuses qui diraient ouais. qui disent que le constructeur Rimac, ben, achèterait tout simplement la marque Bugatti du groupe Volkswagen. Donc, on savait pas que Bugatti était à vendre nécessairement, mais visiblement, c'est ça. Rimac s'en porterait acquéreur.
Difficile de croire que la marque Bugatti, qui fabrique au bas mot 400-500 véhicules par année,
ouais.
peut être aussi lucrative. Parce que ça demande de l'énergie de créer une marque pour vendre 500 voitures, même si tu les vends 3, 4, 5 millions chacune. Ouais. Et Volkswagen a peut-être d'autres chats à fouetter. Donc, on peut peut-être comprendre pourquoi on se défait de cette marque française-là. Les gens, mm-hmm. Il y a beaucoup de gens qui pensent ouais. que c'est une marque italienne, mais c'est une marque française.
Ouais. C'est pas parce que ça finit en I que c'est nécessairement italien. Mais c'est ça. Donc, Rimac est un constructeur là, assez récent, 2009, un constructeur croate. Donc, ça arrive un peu de nulle part, si tu veux, mon avis. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on va suivre ça de très près.
Fantastique. Alors, voiture de la semaine, Germain, toi, tu as conduit un véhicule qui disparaît.
Oui, hein? C'est ça. Donc, après que tu as conduit la Lincoln Continental la semaine passée, oui. qui disparaît à son tour, ben c'est la Honda Civic SI en version coupée. Donc, c'était, si ma mémoire est bonne, la dernière voiture compacte coupée parce que, à une certaine époque, chaque marque qui avait une voiture compacte ou presque avait une déclinaison coupée.
Et en fait, on peut reculer loin. Oh, je pensais à la Corolla qui était un coupé, mais Hyundai a eu un coupé ouais. avec l'Elantra. On l'a eu du côté de la Forte.
Chez GM, il y avait des coupés pour chacune des compacts.
Cavalier, mais à partir du moment où on est arrivé, même la Cobalt, mais à partir de la Cruze, on a abandonné ça. Donc, puis Ford avait eu une superbe tentative.
Oui, avec la Focus.
Oh mon Dieu, ça c'était effrayant.
Deux portes à valise, c'était.
Tu sais, rater une voiture, ça c'est un bel exemple. Mais bref, les coupés compacts à tendance non sportive sont à peu près tous disparus, même les sportifs. Parce que, pense à ça, les petites voitures sport deux portes, il n'y en a plus.
On
la GTI n'existe plus en version deux portes. Non. Il reste la Veloster N.
Oui, il reste une Toyota 86, ces petites voitures-là.
Mais là, on est dans le coupé sportif à propulsion.
Oui, oui. C'est différent. Là,
on dit que l'industrie automobile devient de plus en plus générique, c'est que les types de voitures disparaissent. Les cabriolets sont de moins en moins populaires. Les familiales disparaissent les unes après les autres. Les
coupés aussi. On décline des VUS là, du plus petit au plus moins petit, au moins c'est petit, au gros. Ça finit plus. Là.
Puis la tendance est de se diriger vers cette forme-là qui est de plus en plus générique, celle d'un VUS qui tend à vouloir avoir l'air d'un neuf parce qu'on sait que
la
forme d'un neuf est ce qui est le plus aérodynamique. Alors, Civic SI, moi qui m'a déçu dans sa dernière génération, mécanique qui n'est pas aussi inspirante que l'ancienne.
Non.
Problème de suspension arrière, sérieux.
Et effectivement, ces Honda-là, à connotation là, sportive, il fallait les faire révolutionner haut de manière traditionnelle, mais ça me paraissait encore plus marqué avec une version à moteur turbo. Je te dis, sous la barre des 4000 tours, 4500 tours, il ne se passe absolument rien. Il faut la faire révolutionner. Faut toujours la faire crier.
Oui, puis dans les hauts régimes, elle est décevante aussi.
On perd en sensation.
Ouais. Il y a un délai à l'accélération.
Et même si c'est une voiture compacte à deux portes, ça me paraît une grosse voiture. Je l'ai senti lourde, je l'ai senti encombrante. Les portes sont énormes. C'est pas ce que je m'attendrais d'une voiture.
Ben, on l'a perdu. Puis on le voit aussi dans sa popularité.
Oui.
Faut dire que.
Et j'irais me chercher une GTI n'importe quand avant
sans hésiter. Ça c'est sûr. Puis faut comprendre une chose aussi, c'est qu'Honda ne s'est pas adapté aux nouvelles tendances.
Non.
Nouvelle tendance étant les boîtes DSG ou les boîtes double embrayage ou automatique. La Civic SI n'existe qu'en manuel. Et pour certains maniaques, c'est une bonne nouvelle.
Oui, et la boîte est bonne là, cela dit.
Oh, mais, ça, oui. Mais je veux
mais
dire...
Si on a juste regardé la quantité de DSG qui se vend chez Volkswagen, et effectivement, il y a un marché pour ça.
Ah, bien, la GTI, c'est plus de 70% ben, voilà. en DSG. Donc, ça, ça parle bien. Moi, de mon côté, le...
Mais quel un petit peu plus costaud.
Un peu plus costaud, léger. J'ai conduit le Chevrolet Tahoe 2021, donc en primeur ici, parce qu'on est arrivé avec des véhicules américains qu'on nous a fait conduire ici. J'ai conduit le véhicule dans sa version High Country et je prends le volant aujourd'hui de la version Z71 parce que désormais, on a 6 versions de disponibles. Donc, LS, LT...
Elle a un beau petit quelque chose, là, le Z71. Là, on arrive avec un côté vraiment plus costaud, un petit peu plus robuste.
Absolument. Bien, autant la version High Country repousse les limites du luxe, ce qu'on n'avait pas nécessairement dans le passé. On l'avait avec la version Premier, qui est toujours là d'ailleurs. Mais là, avec le High Country, vraiment, on repousse les limites
du luxe. C'est l'équivalent du Denali chez GMC.
Exactement.
Là, voilà.
Exactement. Mais tu vois, chez Chevrolet, là, la version Z71 s'adresse à ceux qui veulent avoir un véhicule plus aventurier, veulent faire du hors-route. Là où je trouve qu'on fait une erreur, c'est qu'on ne propose comme seul moteur que le 5.3 litres, qui est un super bon moteur, là, le moteur LS, 355 chevaux, jumelé à la boîte automatique à 10 rapports. C'est d'ailleurs le moteur de série dans toutes les versions, à l'exception du High Country, qui, lui, a droit au moteur 6.2 litres. Et c'est le seul à pouvoir recevoir le 6.2 litres chez Chevrolet. Alors que du côté de GMC, il y a quelques versions qui pourront en bénéficier. Mais
la grande nouveauté aussi, c'est qu'on arrive avec un moteur diesel.
Sauf dans la version Z71,
ce qui est un
non-sens.
Ironique,
ce qui est un non-sens, parce qu'en hors-route, tu vas avoir du couple, de l'instantanéité de ton couple. Et c'est ce que un diesel te propose et on ne l'a pas dans cette version-là. Donc, il va falloir se réaligner chez Chevrolet parce que ce moteur-là, moi, je l'ai essayé, tu l'as essayé aussi dans les camionnettes 1500 chez Chevrolet GMC. C'est un moteur extraordinaire. 6 cylindres en ligne, le couple est génial, ça ne consomme pas. Je trouve que son rendement est plus intéressant que ce qu'on propose du côté de chez Ram avec l'éco-diesel. Fiabilité, on ne la sait pas encore. Là. C'est assez récent comme mécanique. Mais...
Ce que j'avais lu à sa sortie, parce que, bon, il y avait plusieurs journalistes américains qui trouvaient ça déplorable que ce moteur-là soit pas livrable avec la version Z71, c'est que avec la configuration de son devant qui est différente de celle des autres versions et de son capot, on pouvait tout simplement pas faire fitter en bon français ce moteur-là dans cette version-là. J'espère qu'on a donné un peu d'heures supplémentaires aux ingénieurs parce qu'ils n'auront pas le choix de trouver un moyen. Là.
C'est pas parce qu'il y avait, pas comme s'il n'y avait pas d'espace. Là,
ben, pourtant, là, on est d'accord.
Mais oui, effectivement, c'est la raison qu'on nous avait donnée et je ne sais pas, j'ai pas vérifier du côté de chez GMC si la version AT4, elle, pourra avoir droit au moteur diesel.
C'est une excellente question.
Mais bref, c'est sûr que GMC risque d'avoir un petit avantage parce qu'on va offrir le moteur 6.2 litres dans une plus grande... dans plusieurs versions.
Qui est un moteur fabuleux.
Ah, le 6,2 litres. Écoute, j'ai conduit à peu près 200 km avec ce moteur-là. J'ai fait de la ville et j'ai fini ma moyenne à 12,7 litres au 100 avec un moteur de 420 chevaux, 460 livres-pieds de couple, capable de remorquer 8500 livres dans ce véhicule-là.
Dans un énorme véhicule!
Et il faut pas oublier une chose. Moi, je veux parler du véhicule parce que suspension pneumatique aux quatre coins, c'est une suspension extraordinaire. Désormais, c'est une suspension indépendante à l'arrière. Ça permet de rabaisser le plancher arrière de 5,2 pouces. On gagne au niveau du confort. On gagne en espace énormément à l'intérieur. On a un plancher plat à la grandeur. Quoique le seuil est quand même encore assez haut.
Oui, à l'arrière, mais ça se voit surtout, là, le seuil de coffre, là, c'est très haut.
Le seuil est quand même assez haut, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait dans le passé. Et il y a plus de volume parce que le véhicule est 4 pouces plus long que par le passé. Finition qui est plus belle. Il y a encore certains plastiques GM de Pontiac G6 à certains endroits qu'on se demande si un jour ça va disparaître.
On n'a plus le levier de vitesse à la colonne non plus, si je ne me trompe pas.
C'est à bouton poussoir désormais. Ouais. On l'a gardé dans les camionnettes 1500, mais c'est à bouton poussoir dans toutes les versions. Boîte 10 vitesses qui est de série aussi. Petit gadget qu'on a ajouté, une console centrale qu'on peut ajuster de façon électrique. Wow. Ça me semble un peu limite inutile, mais en même temps, elle est tellement bien faite que c'est un gadget intéressant. Il y a des écrans partout là-dedans. On a des écrans multimédia en arrière qu'on peut connecter directement à Internet sur YouTube pour les enfants. Bon, fait 12,6 pouces, deux écrans en arrière. Il y a plein de nouveautés.
Donc, les gens qui te suivent vont pouvoir eux aussi regarder la télévision.
Oui, exactement. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Je pense que c'est un camion qui est extraordinaire, mais j'ai hâte de voir comment on va s'ajuster à l'arrivée du Wagoneer, Grand Wagoneer, qui qui, lui, va arriver avec une version hybride rechargeable, ce qu'on n'a pas chez Chevrolet. On est encore à des mécaniques assez traditionnelles. Alors ça, seul l'avenir le dira.